L'Église comme type du mariage. Série d'études pastorales sur les relations numéro 4. Par Brian Kozurek. Ce matin, j'aimerais continuer avec notre série sur les relations. Pendant les deux dernières semaines, nous avons abordé l'isolement et ses effets sur les relations. Peu importe si s'installe dans le mariage ou dans une autre genre de relation telle que l'Église ou n'importe quel groupe de gens qui ont un lien en commun. Quand quelqu'un dans le groupe, ou dans le mariage, commence à devenir déprimé, il commencera à perdre espoir, et quand il a perdu l'espoir, il commence à s'isoler de son conjoint, eux, ou du corps des croyants, et avant que vous n'ayez mis compreniez ce qui se passe, il quittera ce groupe de croyants. Il y a quelques années, nous avons étudié le processus dont frère Branham nous a dit que c'était ce qui arrive aujourd'hui dans le monde. Nous avons vu que l'isolement ou le fait de se désassocier était la dernière étape de la névrose, avant que la personne Néhémie devienne totalement névrosée. Dans le message, Christ est révélé dans sa propre parole. Il a dit, vint les hommes présentement. Et les gens aujourd'hui sont dans un tel état de névrose, le monde entier. Or, pour comprendre plus profondément comment garder en bonne santé et pleine de vie une vie de couple, nous devons connaître les causes de cette dislocation. Comme je l'ai dit la semaine dernière, je crois que les mêmes étapes que nous avons vues dans le développement de la névrose s'appliquent aussi dans la mort d'un mariage, d'une famille, aussi bien que la mort de toute autre relation, y compris les relations de l'Église. Et les familles se meurent par étouffement, les amitiés se meurent par étouffement, parce que les gens perdent de vue la raison pour laquelle nous sommes placés ici sur Terre. Nous avons découvert dans notre étude sur la névrose que la chose principale qui cause le démarrage du processus de la névrose, c'est-à-dire que les gens Néhémie sont pas focalisés sur les vraies choses. Jésus nous a ordonné de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, righteousness en anglais. Ce signifie état de sagesse correct dans le message Christ est le mystère de Dieu. Frère Branham nous a dit, l'enfer est contre cette vérité de la révélation de ce mystère. Mais l'épouse se tient là-dessus. C'est sa position. Pourquoi avoir faim, Église? Pourquoi avoir soif? C'est Esther le Père qui essaie de vous révéler ce secret caché. Mais vous laissez beaucoup de choses le faire sortir de vous. Vous laissez votre travail, votre femme, votre mari, vos enfants, les soucis du monde, un pasteur, quelqu'un d'autre faire sortir cela de vous. Quand vous savez, tout au fond de votre cœur, que vous avez soif, faim. C'est Dieu qui essaie de vous le révéler, voyez? La révélation. Nous sommes dans le dernier jour. Et une fois que vous laissez votre travail, votre femme, vos enfants ou quoi que ce soit vous détourner de la promesse divine, alors c'en est fini de vous. Vous êtes perdu. Vous devenez alors déprimé et une fois que la dépression s'installe, l'espoir s'envole. Alors vous êtes fini. Souvenez-vous que le processus va de la dépression à l'isolement. La dépression, puis l'isolement, c'est l'ordre de la dislocation. Frère Vell l'a appelé la trahison, une usure. Vous vous enlacez tout simplement. Vous vous épuisez et vous perdez espoir, et quand il n'y a plus d'espoir, vous mourrez. Car l'espoir fait vivre. Dans le magazine Psychologie Today, le docteur Philip Zimbardo, professeur à l'université de Stanford, a dit, je n'ai mis qu'on n'ait pas de plus puissante cause de mortalité que l'isolement. Il n'existe pas d'influence plus destructive sur la santé mentale et physique que votre isolement de moi et notre isolement d'eux. Il a été prouvé que l'isolement est l'agent crucial dans le développement de la dépression, de la paranoïa, de la schizophrénie, du viol, du suicide et des meurtres en série. La stratégie du diable en notre temps, c'est-à-dire de banaliser l'existence humaine et de nous isoler les uns des autres, tout en créant l'illusion que c'est-à-dire dû aux contraintes de temps, aux exigences du travail ou aux soucis financiers. Proverbe 13h12, un espoir différé rend le corps malade, mais un désir accompli est-à-dire un arbre de vie. Le puissant conquérant vous êtes. Non pas seulement qu'il est-à-dire ici, vivant, mais vous êtes vivant avec lui. La grande espérance que vous avez dans votre cœur vous fait vivre. Les témoins et nous, qui étions une fois morts par nos péchés et nos offenses, il nous a rendus à la vie. Et l'expression « rendre à la vie » signifie ressusciter de nos anciennes formes de vie pour une nouvelle espérance vivante qui se repose dans nos cœurs en attendant la venue du Seigneur Jésus, la seconde fois dans la gloire. Ainsi, nous voyons que cette espérance fait vivre. C'est-à-dire une espérance vivante dont nous parlons. 1 Pierre 1, 3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Or, la semaine dernière, nous parlions de combien les membres de l'Église primitive semblaient être proches. Nous avions lu dans les Écritures la manière dont l'Église primitive avait tout en commun. Ce qui fit que le feu brûlait continuellement dans leur cœur. Dans le livre des Actes, nous avons trouvé que la clé de cette intimité se trouvait dans un processus en quatre étapes, la doctrine, la communion, la fraction de pain et la prière. C'est-à-dire ce qui manque aujourd'hui dans les maisons et dans l'église, c'est-à-dire de Néhémie pas avoir ces quatre éléments travaillant ensemble. Acte 2h42, il persévérait dans l'enseignement, la Bible anglaise dit, dans la doctrine des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières. 43 La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. 44 Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ces quatre éléments importants commencent par le fait d'avoir la même doctrine, car comment deux hommes marchent-ils ensemble, sans en être convenus? Puis cette doctrine amène la communion, ce qui signifie l'association, le regroupement et le fait de partager, de participer ensemble jusqu'au point de l'intimité. Romains 5, 1 Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, 2 À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Je me tiens à la porte, et je frappe 12-08-57 Il doit avoir accès à chaque pièce dans la maison, à chaque compartiment. Toutes ces petites choses secrètes de la vie, il doit en avoir l'accès. Alors, il devient Seigneur. Pourquoi veut-il entrer dans votre cœur? C'est-à-dire pour être votre Seigneur. Il frappe à la porte pour être votre sauveur. Et si vous gardez l'égoïsme, l'orgueil, et la malice et toutes ces choses dans votre cœur, il n'est ni peut pas être Seigneur, bien que vous ayez accepté qu'il entre. Il n'est ni peut être Seigneur. Quand il est Seigneur, il est Seigneur sur tout. C'est pourquoi il frappe à la porte. Frère Branham reproduit le son de frapper à une porte, aide. Ô Seigneur, faites-le entrer. Je veux entrer souper. Qu'est-ce que le souper? C'est-à-dire la communion. Quand vous avez la communion l'un avec l'autre. Combien le Seigneur et vous? Vous êtes amis. Vous êtes partenaires. Et quoi que vous ayez, il l'a aussi. Alors, quoi qu'il est, vous l'avez aussi. Voyez-vous, il devient vous, pour que vous puissiez devenir lui. et tout Esther en commun. Remarquez que frère Branham, ici, cite le livre de l'Apocalypse. Apocalypse 3h20 voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Et il a dit, qu'est-ce que le souper? C'est-ce la communion? Quand vous avez communion l'un avec l'autre. Jésus nous appelle à lui ouvrir afin qu'il puisse avoir accès à la communion. C'est tout ce qu'il demande. Il veut avoir accès à la communion avec vous. Et comment est-ce ce qu'il le fait? À travers sa parole. Et comment vous présente-t-il cette parole? À travers des hommes. Des hommes ayant accès aux hommes. Des frères qui se réunissent avec des frères, qui parlent de la parole, qui communient autour de la parole et qui prient ensemble. L'accès à la communion. C'est ça, l'Église, et c'est ça le mariage ou n'importe quel autre genre de relation. L'accès à la communion. C'est ce dont l'Église a le plus besoin aujourd'hui qu'à n'importe quelle autre époque. L'accès au partage. L'accès à l'affection. L'accès à l'amour. L'accès de l'un à l'autre, comme une famille de Dieu. Mais qu'avons-nous fait? Nous laissons nos travaux, ou notre emploi du temps, ou nos autres fréquentations interrompre la communion des saints. Nous vivons reclus et nous nous demandons pourquoi nous sommes affamés d'affection et de trouver une personne qui nous aime. Dans Genèse 2h18, nous lisons, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Genèse 2h21 Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes, et referma la chair à sa place. 22 L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. 23 Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est osée de mes osées et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. 24 Sester pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Or, ce mot s'attacher signifie rester ensemble, s'accrocher, se coller, rester proche, se cramponner, garder le contact, se coller à, suivre ou rester fidèle ou n'aimer pas s'éloigner, rester avec, suivre de près, s'unir à, s'emparer de, saisir ou prendre. Ainsi, nous voyons que c'est Dieu lui-même qui a dit, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul, alors je vais instituer le mariage dans le but qu'il ait toujours quelqu'un à ses côtés. Mais qu'est-ce qui est la cause de cet isolement, cette séparation, cette exclusion ou cet éloignement dans le mariage? Lorsque vous êtes exclu, vous vous sentez éloigné, un manque de contact, et très peu d'intimité. Vous êtes dans le même bateau, mais vous n'avez pas de communion. Vous pouvez être dans la même église, mais vous n'aimez, vous connaissez vraiment pas. Vous mangez la même nourriture spirituelle, vous êtes assis à la même table spirituelle, et pourtant vous êtes isolés, éloignés et coupés les uns des autres. Pourquoi? Vous vous réunissez pour adorer ensemble, pour croire ensemble, parce que vous avez le même temps de repère. Et cependant pourquoi sommes-nous si distants les des autres? Nous n'avons pas été créés pour vivre seuls. Alors pourquoi essayons-nous de vivre seuls notre vie chrétienne? Vous Néhémie pouvez pas vous isoler et garder votre famille ensemble? Pas plus que vous Néhémie pouvez vous isoler et garder un mariage uni. Vous avez besoin d'être aimé, et vous avez besoin d'aimer. Frère Branham a dit dans le message, écoutez-le, vous Néhémie pouvez pas vous isoler et obtenir quelque chose de Dieu. L'identification 16.02-64 Si vous n'avez pas une église, vous devez être. Voyez, vous allez mourir spirituellement. Vous allez tout simplement dépérir. Paul a dit dans le livre des Hébreux 10h24, veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. 25 N'abandonnons pas notre assemblée, comme s'estère la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Les œuvres que je fais rendent témoignage de moi 13.04-51025 Eh bien, isolez-vous simplement d'un petit groupe. Personne, Néhémie va vous croire de toute façon. Et ils n'ont pas à le faire. Je Néhémie le ferai pas, que si j'étais un pécheur, je Néhémie vous croirait pas. Non, monsieur. Quand vous parlez de l'amour de Dieu et que vous Néhémie le manifestez pas, alors, je crois que vous parlez de quelque chose que vous n'avez pas. C'est-à-dire vrai. C'est-à-dire par leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est-à-dire vrai. Amen. Ainsi, mettez vos cœurs ensemble et soyez un en Christ. Psaume 133, 1 Voici, oh, qu'il est-à-dire agréable, qu'il est-à-dire doux pour des frères de demeurer ensemble. 2 C'est-à-dire comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. 3 S'estère comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'estère là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie, pour l'éternité. Éphésiens 4, 1 Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. 2 En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. 3 Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Que veut dire s'efforcer de faire quelque chose? Ça veut dire être appliqué, diligent et se donner de la peine ou du mal acquis dans l'intérêt de cette chose. 4 Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. 5 Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. 6 Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. 7 Mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Maintenant, c'est ça la clé. Il n'y a qu'un seul corps, pas deux, mais un seul corps, point. Et la même chose s'applique au mariage. Jésus a dit dans Matthieu 19, 5 c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair, 6 Ainsi ils n'émis sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc Néhémie sépare pas ce que Dieu a joint. Et c'est-à-dire aussi la clé pour avoir une église soudée. Comprendre que nous Néhémie sommes pas un groupe d'individus, mais nous sommes un corps. Pourquoi? Parce que Dieu nous a fait ainsi. Je crois que c'est-à-dire un domaine où nous avons tous besoin d'apprendre à grandir ensemble. Je suis sûr que dans chaque mariage il y a des choses que le mari fait qui rendent sa femme tout simplement folle. Il y a des choses que la femme fait qui rendent son mari tout simplement fou. Mais le nœud du problème c'est-à-dire que les choses qui le rendent fou sont les mêmes choses qui la rendent folle. Et cependant c'est-à-dire juste l'inverse. Par conséquent, c'est-à-dire là où nous avons besoin de nous réunir et de reconnaître que nous n'y sommes pas deux. Mais un, ce qui signifie que nos pensées doivent se rencontrer afin d'arriver à comprendre ces domaines. C'est-à-dire comme quand un couple est-à-dire navigue différents matières d'argent, il se peut qu'il soit libéral en matière d'argent et qu'elle soit une vraie économe. Or, dans un tel cas, l'un comme l'autre vont habituellement essayer de convertir l'autre à sa manière de penser. C'est-à-dire alors que vous avez des ennuis. Si nous comprenons que Dieu n'y fait rien sans un but, alors nous devrions comprendre. Si nous croyons que les pas du juste sont ordonnés de l'Éternel, alors nous devrions aussi savoir que Dieu avait un dessein dans le fait que nous avons épousé cette personne plutôt qu'une autre. Dieu a une façon de vous amener à voir à vos fautes, et il n'a pu trouver une meilleure façon que de vous donner un conjoint. La même chose s'applique à l'Église. Si nous étions tous pareils, alors Dieu ne pourrait pas nous parfaire en nous frottant les uns aux autres et en faisant tomber toutes les excroissances. Mais Dieu a un dessein dans ce qu'il fait, et ce n'est pas un secret qu'il nous a réunis pour frotter en chacun de nous afin de nous amener à l'endroit qu'il veut que nous soyons. Question et réponse 30.08-64 soir 1149-018. Comment puis-je prendre un gratron et en faire un grain de blé? Il m'est impossible de le faire. L'unique manière pour que ça puisse l'être, c'est parce que qu'à l'intérieur de ce gratron, d'un gratron blé, un gratron en un germe appelé la vie de blé a été transmise. Puis vous enterrez ce gratron, et il produira un grain de blé, c'est-à-dire juste. Vous voyez? Parce que la vie du blé a été mise dans le gratron. Et que la vie du gratron a été retirée. Mais la nature du gratron est-à-dire toujours de coller, voyez? Et ça le restera jusqu'à ce que cette nouvelle vie ait pleinement poussé de la terre et soit à nouveau ressuscitée. Quand elle sera sortie, alors sa Néhémie sera plus du gratron, mais du blé. Mais pendant qu'elle est encore ici sur terre, elle est dans la de la terre. Et un gratron, c'est toujours collant, mais en lui, il a la nature du blé. Et aussi longtemps que vous êtes dans cette vie, vous allez toujours être collant et vous allez avoir une nature charnelle qui vous dérangera aussi longtemps que vous vivrez, mais à l'intérieur de vous, vous êtes né de nouveau. Et quand vous serez ressuscité, vous serez à la ressemblance de Christ et tout le péché sera parti de vous. Voyez? C'est cela la chose. Question et réponse 30.08-64 soir 1151-36-023. Quelqu'un m'a dit une fois qu'il y avait un qui une fois était converti et avait reçu le Saint-Esprit, et il lui demanda, « Comment allez-vous ? » Il a dit, « Assez bien et assez mal acquis. » Et il lui a dit, « Eh bien, que voulez-vous dire par assez bien et assez mal acquis ?» Il a dit, « Eh bien, depuis moi recevoir le Saint-Esprit, a-t-il dit, il y a deux chiens en moi, l'un d'eux est un chien noir et l'autre est un chien blanc. » Et il a dit, « Ils se disputent tout le temps. » Il a dit, « Ils grognent et se battent. » Il a dit, « Le chien blanc veut que je fasse bien, le chien noir veut que je fasse mal acquis. » Il dit, « Eh bien, chef, lequel des deux gagne le combat ?» Il lui répondit, « Cela dépend de celui que le chef nourrit le plus. » Ainsi, je pense que c'est une bonne réponse ici. Voyez, là, ça dépend simplement du conflit du corps qui est en vous. Ça dépend de celui que vous satisfaisiez. Quelle est la nature que vous satisfaisiez? La nature charnelle selon les choses du monde? Ou la nature spirituelle selon les choses de Dieu? C'est ça qui fait la différence. Maintenant, la raison pour laquelle le chef avait une lutte après avoir reçu le Saint-Esprit, c'est parce qu'avant de recevoir le Saint-Esprit, il n'y suivait qu'une seule direction, celle de la perdition. Et si vous n'êtes pas né de nouveau, il n'y a aucune bataille en vous. Mais une fois que vous recevez le Saint-Esprit, c'est à ce moment-là que la bataille commence. C'est une bataille pour que la pensée prenne possession de tout votre être. Il n'existe que deux puissances en ce monde, Dieu et Satan. Et avant que vous n'ayez soyez né de nouveau, vous alliez à la dérive avec le monde et les soucis du monde. Il se peut que vous ayez été insouciant, parce que vous n'ayez saviez pas mieux. Mais quand Dieu est rentré dans votre cœur par la parole, vous commencez à comprendre. et s'estère cette compréhension qui amène le conflit. Et ce conflit estère la plus grande bataille jamais livrée, et elle estère livrée dans votre pensée par Dieu et par Satan pour le droit de contrôler votre pensée, et de cette façon tout votre être. Mais dans le mariage, il existe un autre genre de confrontation qui vous attend, parce que vous et votre femme étiez deux personnes, et maintenant vous êtes devenu une seule personne par la loi de Dieu, par le mariage. Par conséquent, vous n'êtes plus deux, mais un, et vous devez penser comme un. Travailler ensemble comme un si vous devez réussir votre mariage. Et quand vous en avez deux qui s'unissent pour n'en faire qu'un, vous aurez des conflits. Mais c'est-elle la manière de résoudre ces conflits qui déterminera les résultats. Vous n'avez mais devriez jamais régler vos conflits sur base de vos émotions. Vos conflits Naomi devraient jamais se baser sur des craintes injustifiées. Soit vous faites confiance au Seigneur dans votre vie, soit vous Naomi le faites pas. Soit les soucis de la vie vous guident, soit la parole de Dieu vous guide, mais vous Naomi pouvez pas être guidé par les deux. Ainsi, je voudrais examiner ce conflit dans le mariage, ce conflit de deux qui deviennent un. Ce conflit où beaucoup de gens s'unissent pour devenir un seul corps, et ainsi vivre en harmonie et dans l'unité, comme David l'a dit. Psaume 133, 1 Voici, oh, qu'il estère agréable, qu'il estère doux pour des frères de demeurer ensemble dans l'unité. C'est Grâce Fellowship Tabernacle, juillet 2008. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos questions et vos commentaires concernant ce site internet à briancocourec@yahoo.com mode limited is active false is user disabled false